Vous savez qu'on est dans l'Épître aux Hébreux, dans ces temps de lecture de la Bible, prédication. On suit le texte de l'Épître aux Hébreux, ce qui nous permet d'avoir tout le fil conducteur de la pensée de l'auteur et de regarder tous les textes avec l'aide de Dieu. Les premiers lecteurs faisaient certainement face à des difficultés, à de la persécution. Je l'ai déjà dit. Et dans cette situation, les personnes sont tiraillées. Certaines personnes, et même ont des attitudes un petit peu différentes, ceux qui sont en chemin pour découvrir Christ, par exemple, se posent la question si finalement retourner au judaïsme ne serait pas mieux. Ils retrouveraient la tranquillité d'avant, que ce soit au niveau du travail, de la famille, de beaucoup de choses. Peut-être même que certains l'ont déjà fait. Ce questionnement de ces personnes qui sont en chemin ont pour conséquence de poser des questions à ceux qui sont déjà des disciples de Jésus, qui sont peut-être chamboulés dans ces assurances en Jésus. Et face à cela, l'auteur, dans le début de l'Épître, nous a montré tout ce qui est supérieur en Jésus, tout ce qui est accompli. Et on pourrait dire qu'il n'y a même pas photo entre ce que c'était l'œuvre préparatoire et l'accomplissement parfait en Jésus. Et pour ça, il encourage les lecteurs, autant ceux qui devraient saisir Christ que ceux qui l'ont déjà fait, à avoir Jésus pour objectif. Vu que tout est réalisé en lui, ayons pour objectif Jésus, soit pour le saisir, soit pour rester ferme et pas être déstabilisé. Et on a vu la dernière fois, Jésus est le but, l'exemple suprême à suivre. C'est lui qui peut nous aider du début jusqu'à la fin. Et pour faciliter cette ambition, l'auteur donne quelques conseils. On a vu, c'était presque comme un entraîneur d'athlétisme qui voulait donner des conseils à la personne qui faisait une course. Débarrassons-nous de tout ce qui nous encombre. Pas forcément des choses négatives, mal, mais qui nous encombrent. Pas de compromis avec le péché. Ce serait comme courir sur une jambe. Et persévérons. La vie avec Jésus est plus un marathon qu'un 100 mètres. Et l'auteur va continuer à encourager afin que ceux qui doivent saisir la grâce en Jésus se décident enfin et que les autres continuent à tenir ferme. Et pour cela, il va glisser plein d'allusions de l'Ancien Testament. Comme certains se posent la question de retourner au judaïsme qui est fondé sur l'Ancien Testament, eh bien, il va montrer plein d'exemples de l'Ancien Testament pour, illustrer son propos. Et pour nous, c'est aussi un petit rappel à connaître toute la Bible, parce que des fois, des textes qui sont dans les évangiles ou dans les épîtres, on les comprend bien mieux quand on connaît l'Ancien Testament, parce qu'il y a des allusions entre ce qui était préparatoire et ce qui est réalisé en Christ. Alors, on est en Hébreux, chapitre 12, et on va lire à partir du verset 12. Facile, 12-12. Et c'est la page 1374. Hébreux 12:12. On a une expression, quand on est un peu préoccupé comme ça, qu'on a plein de choses qui tournent dans nos têtes, on dit souvent, lui, il n'est pas dans son assiette. Alors, c'est une expression qui est commune à nous ici. Alors, ce n'est pas les mêmes expressions à l'époque et dans une autre culture, mais c'est un petit peu la même chose que l'apôtre veut nous souligner. Hébreux 12, 12. Fortifiez donc vos mains défaillantes, vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Il est malin, l'autre. Bon, il est inspiré du Saint-Esprit. Quel est le boiteux le plus célèbre? Une référence dans l'histoire des Hébreux. Jacob. Hein? Et Jacob est comme un fondement, un socle dans l'histoire, la grande histoire des Juifs. Et donc, et ben là, il y fait référence. Hein? Et il fait référence parce que Jacob, il est devenu boiteux à quel moment? À une rencontre unique où il a bataillé avec Dieu. Une rencontre spéciale qui va marquer sa vie et même son nom va être changé de Jacob en Israël. Vous voyez la référence que fait ici l'auteur hein, à ces personnes qui voulaient retourner à ce qui était, nous, ce qu'on désigne comme l'Ancien Testament. Hein. Il est en train de leur montrer, mais oui, Jacob, il avait une rencontre spéciale avec Dieu à ce moment-là. Hein. Et bien, au lieu de retourner dans ces choses, il dit branlante, pas tout à fait, choisissez Christ, choisissez Jésus. Et pour ceux qui sont déjà croyants, eh bien, ne vous embarrassez pas de questions inutiles. Focalisez-vous sur Christ. Des chemins droits, hein, comme on vient de dire, un objectif qui est direct sur Jésus. Comment faire pour avoir Jésus pour but? Recherchez la paix et grandissez en sainteté. Et on l'a chanté. L'objectif d'être saint, c'est de pouvoir rencontrer celui qui est saint. Nous ne pouvons pas le faire, homme pécheur. Donc, comment rejoindre celui qui est saint? C'est une mission impossible, sauf au travers de Jésus, qui nous permet d'être saint aux yeux de Dieu et de pouvoir avoir accès à lui et d'avoir accès à cette rencontre. Regardez verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Comme dit plus haut, seule la grâce en Jésus permet d'y avoir accès, permet de pouvoir aussi le vivre, même si on a accepté Christ. Progresser dans la sainteté ne peut que se faire avec Christ. En fait, toute autre proposition que Christ serait comme un virus mortel qui se propagerait et infecterait toute la communauté. C'est un peu ce qu'il dit au verset 15. Regardez. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce en Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. L'auteur est bon, hein. Le Saint-Esprit est parfait et l'a bien inspiré. Hein. Parce que là encore, c'est la première fois et c'est la seule fois dans le Nouveau Testament qu'il va y avoir ce terme de racine d'amertume qui donne écho à un événement du peuple des Hébreux où il y avait le renouvellement de l'Alliance et cette mise en garde de l'Éternel. Eh bien, si vous n'adhérez pas, eh bien, il va y avoir des conséquences. Si vous faites style, oui, je suis d'accord, mais que dans la tête, en fait, je fais ce que j'ai envie et j'ai l'intention de faire ce que j'ai envie, Dieu sera redoutable. Dieu sera redoutable. Et il fait référence à ce texte qui devait être connu par ces personnes. Et c'est le même danger qui guette ceux qui ont entendu le salut, la grâce en Jésus, et qui se disent « Ouais, mais c'est quand même plus confort de rester pour l'instant sans que je me décide pour Jésus. Ce sera plus confort. » Avec le danger de cette attitude, ben, c'est que ça fasse tache d'huile, que cette duplicité contamine aussi les autres croyants. Et on voit que ça posait question, même chez les disciples. Et le danger d'une attitude comme ça, dans les pensées, oui, cause toujours, tu m'intéresses, c'est que tôt ou tard, ça se révèle dans les actions, dans ce que je fais. Et l'auteur de l'Épître a montré que cette attitude dans les pensées a un impact pratique. Regardez verset 16. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle. Et là, peut-être qu'il fait aussi écho à des tristes moments de l'histoire du peuple d'Israël. Quand, par exemple, en Nombre 25, vous connaissez peut-être un peu l'histoire de Balaam et Balak, et finalement, il ne peut pas y avoir de malédiction sur le peuple, mais l'idée, c'est que les femmes moabites entraînent le peuple d'Israël dans des péchés sexuels qui les détournent finalement vers l'idolâtrie. Ce qui n'est pas clair là, se révèle dans les actions pratiques tôt ou tard. Ou bien, on continue la lecture du verset 16, où se montrer profanateur comme Ésaü, une autre référence de l'histoire, qui, pour un seul repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il ait cherché avec larmes. Oh, c'est triste. Ésaü est profanateur dans le sens qu'il a délaissé ce qui est éternel de Dieu pour satisfaire un appétit du moment. Là, c'était un appétit du moment, il fallait manger, visiblement, le fameux plat de lentilles. Mais c'est exactement la même situation pour les personnes à qui est adressée cette épître. Retrouver la vie d'avant, satisfaction du moment, sans rejet, sans difficulté. Les personnes qui s'interrogeaient si la grâce et la paix en Jésus et tout ce qui en découle valaient vraiment la peine par rapport à la vie courante qui aurait été beaucoup plus facile. Pour que ces personnes n'aient pas de remords, tout comme Ésaü, des remords en larmes, stériles, quand c'est trop tard. Et pour bien faire comprendre l'affront qu'ils font à Dieu au travers d'une telle attitude, l'auteur ici va faire une comparaison entre le moment terrifiant au moment où la loi a été donnée par Moïse. Souvenez, la montagne embrasée, on ne pouvait pas la toucher. Si un animal était allé, il fallait le lapider, un truc qui a terrifié tout le peuple, et la réalisation parfaite, exceptionnelle, qui touche le ciel, on n'est plus sur terre, en Jésus. Et on va voir cette comparaison au verset 18. « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. » Référence au moment du don de la loi. Montagne fumante, des fois on a des images comme ça d'éruptions volcaniques, c'est déjà hyper impressionnant, mais là ça devait être quelque chose encore beaucoup plus fort. Ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur. » Ça, c'était la réalité terrestre de la manifestation de l'Éternel. Et voyez, l'autre partie de la comparaison, verset 22, « Au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges, en fait de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection. De Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. » L'auteur souligne ici qu'en s'approchant de Jésus, ils ne se sont pas approchés d'une manifestation exceptionnelle, momentanée, même si c'était stupéfiant de voir une facette de la grandeur de Dieu, mais ils se sont approchés de Dieu dans toute sa splendeur, dans la réalisation parfaite en Jésus. Et le fossé est énorme, il n'y a pas de comparaison possible réellement. Tout comme il n'y a pas de comparaison entre le sang d'Abel et le sang de Christ. Le sang d'Abel, pourtant un innocent dont le sang a coulé, en comparaison de celui de Jésus, lui, parfait, innocent, hein, mais qui a ouvert à une alliance éternelle. Vous avez vu dans le texte que je viens de lire, je crois trois fois il est noté, vous vous êtes approchés. Vous vous êtes approchés. Qui nous atteste bien que certains n'étaient pas encore en Jésus. Ils étaient en approche. Hein. Et dans les mêmes versets, les questions des premiers inscrits, d'un autre côté, il est question de ceux qui sont déjà avec Dieu par Christ. Donc, ils sont bien identifiés comme tels. Et c'est là que l'on comprend que cette épître s'adressait à une église comme la nôtre, avec deux types de personnes. Des personnes qui étaient déjà à Christ, qui avaient saisi Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, et des personnes qui entendaient le message, mais qui n'avaient pas encore fait le pas et qui étaient dans le questionnement. C'est un peu comme des avions sur un aéroport. Il y a déjà ceux qui ont atterri, qui sont sur le tarmac. Ils sont atterris, ils sont chez Jésus. Et puis d'autres qui sont en approche. C'est comme si l'auteur dit, ne remettez pas les gaz pour repartir. Atterrissez, venez, venez en Jésus. Il n'y a rien de meilleur qu'en lui. Et la conclusion que nous apporte l'auteur ici, au verset 25, est solennelle. Faites attention. Faites attention. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Exemple de l'Ancien Testament, déjà à l'époque. À combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel ? Waouh ! Et là, on a la même type de comparaison. Déjà l'exemple d'autrefois vers lequel il pensait vouloir retourner et la manifestation suprême en Jésus maintenant. Verset 26, « Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse, une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Les mots « une fois encore » indiquent bien que les choses qui appartenaient au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, hein, vous avez vu, recevons, on n'acquiert pas hein, ce royaume, nous le recevons par Jésus, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Il n'a pas changé, il était aussi terrifiant là, il l'est toujours autant maintenant. Plutôt que miser sur la vie de maintenant, les choses qui disparaîtront, hein, capitalise sur ce qui est inébranlable. C'est ce qu'est en train de dire ici l'auteur. Et de plus, c'est le meilleur moyen de rendre un vrai culte à Dieu. Ceux qui avaient envie de retourner vers le judaïsme avaient derrière la tête, il y avait le temple, il y avait tout, on le voyait, c'était concret, etc. Ils se disaient, oui, mais le temple, c'est quelque chose, là, on peut rendre peut-être un vrai culte. Ce que l'auteur est en train de dire, c'est que le vrai culte, on le rend par Jésus. C'est bien supérieur à ce temple, qui d'ailleurs, quelques années après, en l'an 70, était complètement rasé, et il n'en reste que quelques fondations actuellement. Hein. Comment ce texte peut nous rejoindre ? Comment ce texte peut nous rejoindre ? Alors, on pourra le faire concrètement tout à l'heure. On va prendre la scène. Et vous savez que c'est le témoignage de notre reconnaissance, de notre admiration pour l'œuvre de Christ. réalisé pour nous, hein, et en nous aussi, et on pourra se réjouir de l'œuvre parfaite que Christ a réalisée. Il s'est donné, lui le juste, et son sang a coulé pour qu'on puisse être justement que pardonné complètement, définitivement, péché. Mais il peut y avoir différentes attitudes face à la proclamation du salut au travers de la scène, face à l'annonce du salut au travers de la parole, au travers des mots. Soit on est étanche à ce qui est dit. Hein. Et peut-être même, on peut être étanche pendant des années dans une église, on vient, on s'en va, et on est étanche à la proclamation du salut. On aime bien le contexte, l'ambiance est sympa, les gens ne sont pas trop méchants, pas trop, hein. Mais on est bien, on est dans le groove. Hein. Mais on ne s'est pas décidé pour Christ. Et finalement, la scène n'a aucune réalité. Et même la Bible dit que c'est un jugement contre nous, parce qu'on est en train de célébrer le fait qu'il nous sauve, et le fait de ne pas y adhérer, on est en train de dire, ben, tu me juges. Hein. Et d'ailleurs, on a lu, Dieu est un feu dévorant, et si je reste étanche, ben, je suis encore condamné. Et l'auteur de l'épître dit, mais au lieu de rester en l'air comme ça, atterrissez, acceptez Christ, acceptez Christ. Et d'ailleurs, l'impact de rester comme ça sera certainement, comme il a été dit pour Ésaü, refuser des biens célestes pour quelque chose de matériel, pour des idées qu'on a en tête, etc., des choses comme ça. Et finalement, il arrive un moment, ben c'était trop tard pour Ésaü. Et il arrivera un moment où c'est trop tard pour nous, si on ne se décide pas pour Christ. Mais pire, il pourrait y avoir une attitude de dissimulation, de duplicité. On prend la scène pour faire style, on est dans le mouvement avec tout le monde, mais il n'y a rien de réel en Christ. Rien de réel en Christ. C'est comme une racine d'amertume. Vous savez, comme Dieu mettait en garde, on fait comme si, mais je n'en pense pas moins là. Tôt ou tard, ça se traduira aussi dans les faits. Mais l'invitation de ce texte, ce qui est central de ce texte, c'est saisissez Christ. Saisissez Christ. Et que ces moments de célébration puissent être de l'adoration, de la reconnaissance, de l'amour, hein, où on se rappelle qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur, qu'il n'y a que lui, que tout ce qui était avant, même dans l'Ancien Testament, était passager, transitoire, préparatoire, et que tout est réalisé maintenant. Voilà. Un moment important pour nos vies. Soit de reconnaissance. Il y a de la joie. Hein, il y avait tous ces anges en fête dans le ciel. Ou bien de se décider, de se dire oui, c'est à Christ que je dois me donner. Et le texte de ce matin n'a pas d'autre message de franchir le pas pour Christ si on ne l'a pas fait. Et que si on l'a déjà fait, d'être dans cette assurance, d'être cette reconnaissance. Il n'y a rien d'autre de plus grand, de plus parfait, de plus réalisé que ce qui est donné en Christ. Eh bien, j'aimerais prier avant qu'on chante et qu'ensuite, après avoir pris congé de ceux qui nous suivent, on puisse concrètement partager ce moment de fête qu'est la scène. Seigneur, merci pour ta parole et merci aussi, Seigneur, parce que on voit que de très loin dans l'histoire de l'humanité, tu as permis de nous donner des indices pour qu'on puisse comprendre d'une manière claire, nette, toute la grandeur de ton œuvre. Et Seigneur, on aimerait te dire merci. Merci. Et Seigneur, que tu nous aides à être reconnaissants, à être conscients de la grandeur du salut que tu nous as acquis. Et Seigneur, de son accessibilité, et Seigneur, du fait que l'on est tous concernés. Des plus jeunes aux plus âgés, on est tous concernés par te saisir pour orienter notre vie d'une manière durable, d'une manière porteuse. Et Seigneur, que oui, tu touches peut-être spécialement notre cœur ce matin. Et Seigneur, que le temps de scène qu'on prendra tout à l'heure ait une signification particulière aussi pour chacun d'entre nous. Amen.